Bonjour, mesdames et messieurs, chers collègues. Lors de la conférence précédente, nous avons traité des différentes formes de temporalité, des différentes perceptions du temps par l'homme, le temps naturel ou cosmique et les rythmes qui peuvent être vécus à travers ce phénomène. Les structures physiologiques et biologiques du temps et ce qu'on appelle le temps social ou même temps culturel, plus général. Et nous avions vu que toutes ces expériences du temps sont thématisées dans le récit de Gilgamesh, qu'elles sont tissées dans les textes en tant que structure générale, en tant que topo linguistique, et en tant que sujet précis. Nous avons appris de l'accélération et de la décélération, du début et de la fin, de la durée et de l'interruption, de l'activité et de l'inactivité dans leur double fonction de dimension de la temporalité d'une part et de structuration narratologique d'autre part. Dans la dernière conférence d'aujourd'hui, nous allons maintenant aborder la question de savoir si l'homme peut, à cause de Gilgamesh, surmonter la temporalité et si oui, de quelle manière. Ce faisant, j'aborderai plus en détail trois aspects qui, à mon avis, jouent un rôle central. Premièrement, les possibilités pour l'individu de se déplacer en dehors du temps. Deuxièmement, la possibilité pour une institution sociale de transcender la temporalité. Et enfin, troisièmement, la conceptualisation du temps en Mésopotamie et la signification associée de la mémoire et de la mémoire culturelle pour eux. Donc, premier point, en dehors du temps, au-delà du temps. Et ça, ce point se compose de deux principales idées exposées, une sur l'île de Utnapishtim et l'autre sur le problème du rêve. L'île de Utnapishtim, et je vous montre ici un type de schéma qui donne une impression comment on pourrait penser ce monde en tant que vertical et horizontal. Donc cette île s'est située en dehors du continuum temporel auquel sont soumis les peuples de la Terre, donc où se trouve Uruk, et aussi le monde souterrain, le Irkalla. Seulement le dieu Soleil traverse évidemment cette partie du cosmos. C'était impossible de le montrer dans cette mode de dessin, mais se dit que Utnapishtim pourrait compter les jours et les nuits du sommet de Gilgamesh et que Shamash traversait l'eau mortelle. Donc le texte nous dit dans la dixième tablette, je cite, « Il n'y a jamais eu Gilgamesh, c'est Utnapishtim qui parle, il n'y a jamais eu Gilgamesh de point de passage et personne n'a traversé la mer depuis des temps immémoriaux. » Donc c'est Durdari à ce point-là. « Celui qui traverse la mer n'est que Shamash l'héros. Qui d'autre que Shamash traverse la mer? La traversée est dangereuse, son chemin est plein de dangers. » Et au milieu de celle-ci, il y a les eaux de la mort qui bloquent le chemin à suivre. Fin de citation. Alors, comment donc traverser, et c'est Gilgamesh qui se donne ce travail qui est très très dur pour lui. Et je voudrais juste focuser sur un tout petit passage dont on voit qu'une fois de plus, qu'il y a une contraction du temps. Donc, nous avons déjà vu des exemples pendant la dernière conférence, les processus de la civilisation ou des socialisations, mais aussi dans le motif du sommeil de Gilgamesh et les longs moments du manteau royal. Donc cette compression du temps signifie que dans l'environnement de Utnapishtim, une temporalité différente de celle du monde de l'homme semble prévaloir. Il paraît donc logique que les paramètres dans lesquels chaque étape de ce voyage, donc le transfert sur cette île, s'établit, que cette étape du voyage, ça change. Alors que la première partie du passage était dotée d'une indication chronométrique, ça dure 3 jours. La deuxième partie, donc le franchissement des eaux de la mare, est fournie avec une indication de distance, 120 étapes doubles sont mentionnées dans le texte. Et ça, si on veut transformer, traduire ça dans des unités métriques qu'on connaît un peu mieux, ça serait plus ou moins 48 kilomètres, mais ça, c'est important qu'on a une distance-espace donnée ici, pas une indication du chronologique, mais on a déjà vu que ça pourrait changer, hein, espace-temps. Et la troisième et dernière étape est ensuite couverte à l'aide d'une voile provisoire. Et ici, il n'y a, pour autant qu'on puisse le constater avec l'état plutôt fragmentaire du texte ici, aucune indication de temps du tout. Alors, cet endroit est loin et ce n'est pas possible de compter combien de temps il faut pour y traverser. Deuxième réflexion. Quand Utnapishtim raconte son histoire sur la construction de l'arche, comment ils ont survécu au déluge et enfin sur le sort que les dieux ont décidé pour lui et sa femme, il fait une distinction très nette en disant « Jusqu'à présent, c'est Enlil qui adresse Utnapishtim, maintenant il dit « Jusqu'à présent, Utnapishtim a fait partie de la race humaine. » Amelutu. Mais maintenant, Utnapishtim et sa femme sont devenus comme nous, les dieux. Donc, ils sont comme les dieux. Ils ne sont pas des dieux. Hein? Utnapishtim n'a pas trouvé la vie, l'immortalité que Gilgamesh cherche, car Gilgamesh, c'est ce qu'il cherche, c'est Balatu. C'est l'existence. Utnapishtim, par contre, a trouvé des Nafesh. C'est ce qu'on trouve dans son homme aussi, le souffle de la vie. Donc, cette solution avec l'île, c'est une solution assez particulière. Ce n'est pas pour tout le monde. Hein. Il y a un autre modèle de transcender le temps qui est possible pour tous les hommes. Et ça, c'est par le moyen du rêve. Il y a une étrange surutilisation des rêves dans cette épopée. Hein. Quand on compte, on trouve partout des rêves. Voilà, il y a ce type d'abstraction dont on voit qu'on a 2 rêves de Gilgamesh dans la première tablette, 5 rêves de Gilgamesh dans la quatrième tablette, encore 2 rêves d'Enkidu, et encore dans la 7e tablette, et un rêve de Gilgamesh dans la 9e, et le rêve le plus grand, c'est le rêve du Utnapishtim dans la 11e tablette. Donc, les rêves, c'est un point fort. Pourquoi est-ce que c'est une caractéristique si forte? Et y a-t-il une relation entre tous ces rêves? Le rêve, comme vous savez, c'est un dispositif rhétorique aussi dans ces textes. Il permet à l'individu de commenter ou plutôt d'aborder différents niveaux d'expérience du temps. Le rêve permet d'aller et venir dans le temps et les rêves sont les moyens les plus faciles de voyager dans le temps. De plus, les rêves en Mésopotamie ont une signification différente de celle de notre société occidentale moderne. Dans l'ancienne Mésopotamie, les rêves fonctionnent comme des poteaux indicateurs qui vous guident dans la vie et l'avenir. Ils présentent le passé, mais plus souvent l'avenir. Et l'interprétation des rêves est une spécialisation, est une profession. dont on a vraiment une formation qui doit passer si on veut devenir quelqu'un qui donne des explications. Les rêves fascinent la communication avec les dieux et vous permettent de transcendre les frontières du présent. Un bref passage de la structure des rêves dans les différents chapitres montre leur importance pour le texte entier. Ce sont des rêves très différents dans les temps, propres et généralement complémentaires au temps de la narration. Vous voyez ceci, j'espère qu'on peut lire ça. Je commence en haut à droite. La première tablette avec deux rêves de Gilgamesh qui vont être interprétés par sa mère Ninsun. Le niveau narratif, c'est indirect. Et c'est Shamhat qui le raconte à Enkidu comme un prospectif. La quatrième tablette porte cinq rêves de Gilgamesh pendant les voyages avec Enkidu, quand on va aller pour les Lébans et les forêts du Ruvava. Là, on trouve les rêves interprétés par Enkidu. Le niveau narratif, c'est direct. J'ai vu, j'ai vu. Et la fonction du rêve est prospective. La septième tablette nous donne les deux rêves d'Enkidu qui est déjà dans un état assez pas très, très bien. Il donne une interprétation lui-même. Il explique à Gilgamesh ce que vont dire ses rêves et le niveau narratif, c'est direct, mais c'est un rêve extérieur que porte en le futur, prospectif. La neuvième tablette, c'est le dernier rêve de Gilgamesh. C'est une auto-interprétation, c'est lui-même qui donne l'interprétation. C'est un rêve direct, extérieur, prospectif. Et finalement, l'onzième tablette, c'est le rêve d'Utnapishtim, donc dans les racontes, dans le raconte des rapports pour du déluge. Et là, le rêve est interprété par le dieu Ea. Le niveau narratif, c'est encore une fois direct, mais le rapport, c'est un rêve qui porte sur le passé. Donc, c'est Ea qui explique à Utnapishtim ce que vous dire ce rêve qui est passé. Donc là, on a toute une typologie des rêves et les spécialistes qui s'occupent de cette science de la divination et la science du contenu des rêves pourraient mettre ces rêves dans une relation avec les textes scientifiques. Il y en a de la Mésopotamie, mais c'est une chose qu'on ne veut pas faire ça aujourd'hui et ici. On veut justement indiquer que là, avec ces plusieurs rêves qui nous viennent régulièrement dans ces textes, ça nous donne l'idée qu'il y a un moyen individuel pour les gens de relier différentes expériences temporelles parmi ce moyen du rêve. Donc, ça sur le niveau individuel, une solution qui est impossible pour tout le monde, sauf que Utnapishtim, c'est la solution qu'ils ont trouvée les dieux quand ils ont décidé de le mettre avec son épouse sur cette île lointaine. Et un moyen qui est acceptable pour tout le monde, ce sont les rêves, et c'est une expérience que chacun, chacune fait tous les jours, tous les nuits peut-être aussi. Donc il y a maison une deuxième dimension, et ça c'est la transcendance d'une institution sociale. Et le récit de Gilgamesh montre cet élément avec lequel l'homme, ou plus précisément le collectif, surmonte les limites du temps, à savoir la royauté. Cela peut paraître surprenant à première vue, mais y regarder plus près, c'est extrêmement cohérent. Examinons d'abord trois courts passages du texte. Voilà. Donc, dans les discours du prologue, on trouve Chacharu Arku La Umachalu, qu'aucun roi postérieur ne pourra reproduire. Donc, tout cela que Gilgamesh a vécu, personne ne peut reproduire. Deuxièmement, septième chapitre qui traite en détail des conditions sociales. Il est dit Lou Charou Shaela Arkia Litserki, que le roi qui me succède m'abhorre. Les mots Arkia annoncent le temps après la vie du narrateur et fait référence au concept de temps après la disparition du roi. En règle générale, quasi en passant, le texte indique ici la royauté est un continuum. Il y aura toujours un roi successeur. Et non seulement il y aura toujours des rois, mais la royauté a également existé dans le passé. Et dans les mondes souterrains, les souverains décédés du temps précédent se rassemblent. Voilà. Anshibu, Sharu, Shut Agesha, Ultu, Ume, Pana, Bilumatu. Il y avait des rois ici, les têtes couronnées, qui dirigeaient les pays depuis des jours passés. Cela signifie que l'appel lancé à Gilgamesh, par exemple par Utnapishtim avant le retour à Uruk, cet appel pour re-entrer dans cette fonction du monarque, pour accomplir son destin du roi, signifie également qu'il fait partie de ce continuum. Qu'est-ce que cela signifie dans le contexte de la vision du monde mésopotamienne, le système des croyances qui peut être reconstruit à partir de l'ensemble des textes? Si l'on considère l'histoire des formes politiques de la Mésopotamie ou aussi du Proche-Orient ancien dans un sens plus large, la royauté sous forme de monarchie occupe une place de choix. Enfin, il y a toujours eu d'autres formes d'organisation sociale dans lesquelles les éléments participatifs étaient plus prononcés, à la fois indépendamment et au sein des monarchies elles-mêmes. Ce dernier peut paraître surprenant, mais pensons par exemple à la période de la paléo-assyrienne, c'est-à-dire au 19e siècle. Et là, dans cette cité-État, aux relations commerciales attendues, le souverain était un primus inter pares, comme le premier parmi ses égaux, qui ne portait pas non plus les titres de roi, mais des titres tels que rubaum, noble. En même temps, la royauté, en tant qu'élément décisif de la société, est fondée, par exemple, sur les enseignements de la sagesse. Par exemple, dans un recueil des théorèmes en langue sumérienne, on trouve Onlugal Numea Urusipabin. Les gens sans roi sont comme des moutons sans berger. Trois autres sentences suivent, que je vais également citer ici, jusqu'en traduction. Les gens sans superviseur sont comme un canal sans distributeur. Les gens sans surveillance sont comme un champ sans personne pour les cultiver, et finalement une maison sans maître et comme une femme sans mariage. Mais cette première phrase, les gens sans roi sont comme des moutons sans berger, qui nous intéresse ici, elle fait bien sûr référence à la métaphore du roi comme bon pasteur, bon berger, qui est bien documentée en Mésopotamie dans tous les trois millénaires. Et cette adéquation est renforcée par d'autres parallèles tirés de l'expérience directe de la vie, de l'organisation de l'irrigation, l'organisation de l'agriculture et de l'organisation de la maison, de l'oikos, de la famille. Donc là, c'est clair, c'est une loi nature. Donc dans la tradition des récits de la création mésopotamienne, les institutions sociales comme la royauté ne jouent aucun rôle. On ne trouve pas. Comme les deux récits de la création de la Bible hébraïque, ces textes abordent en effet certaines formations structurelles, par exemple la relation de l'homme à la création, mais la monarchie, qui est une institution qui répond aux besoins de l'homme, n'est donc introduit qu'après la création de l'homme. si l'on suit les indications de la liste des rois pour Lagash, l'humanité a apparemment existé après le déluge, au moins temporairement, sans royauté. La forme du gouvernement initialement établie est décrite comme Ensi. Ce n'est que plus tard que la rédévance sera envoyée sur Terre. La distinction faite ici entre domination, Namensi, et royauté, Namlugal, vise vraisemblablement à justifier la priorité historique de cette fonction-là. Mais la royauté est l'une des institutions civilisatrices que les humains reçoivent des dieux. Dans la liste des mets, la royauté Namlugal apparaît après les insignes royaux, calotte du souverain, trône, sceptre, bâton et robe, qui constituent la royauté par essence. Cette idée est particulièrement claire dans le prologue de l'épopée d'Etana, dont le texte dit « Les dieux ont déterminé au peuple la fête, mais ils n'en ont pas nommé un roi, cependant. » Au peuple nombreux. En ce temps-là, il n'y avait pas de diadème, pas de bandeau et le sceptre n'était pas décoré de lapis. La royauté, la monarchie, ne fait pas partie de la création que très tard, à savoir au cours du premier millénaire, et c'est alors que la personne du roi primordial est créée. Cette idée donc, d'intégrer la royauté dans le cosmos est plus détaillé décrit dans le texte Fawes 24-92, qui a été appelé le mythe de la création de l'homme et du roi, édité par Werner Mayer en 1987. Après ce texte, la création du homme loulou est suivie de la création d'un roi primordial. Donc, l'Acadien lit « Ia pashu ipushma ikapi anabelet ili amata itzaka, belet ili rabuti atima, atima tabnima lullu lulla amelu, pitkima sharra maliku amelu, tabi ubichi gimirlanishu, tsubisimishu bunni sumurshu. » Donc, si on c'est de traduire, et a commencé à parler en s'adressant à Belet Ili. Donc, Belet Ili, dame des grands dieux, c'est vous. Vous avez créé l'homme loulou, donc l'homme primitif, l'homme normal. Formez maintenant le roi, l'homme des décisions supérieures. C'est Akkadien Maliku Amelu, donc l'homme qui peut réfléchir. Enveloppez toute sa silhouette de bonté et rendez ses traits harmonieux, rendez son corps beau. Il faut peut-être ajouter que ce mot Maliku Amelu, donc mot charousse du Akkadien, le mot Maliku, que c'est la racine Malakou, un peu réfléchir, c'est aussi du ouest sémitique et c'est le mot pour roi que l'on dit dans les vestes. Donc là, on a un peu un jour du mot qui, pour les savantes, est très parfaitement compréhensible. Par l'implication de la personne royale dans le processus de la création, la royauté devient une institution fondée dans l'acte de création, une composante de la création. Comme le prototype du souverain est déjà conçu lors de la création de l'humanité, sa fonction reçoit en même temps un droit fondamental à l'existence, ancré dans l'origine des choses. Comme nous avons déjà mentionné, et là je viens au troisième moment, qui est un peu plus long, il n'y a pas de mot pour le temps en sumérien ou en akkadien. Mais il y a une expression qui manifeste fondamentalement la conception mésopotamienne de la temporalité, pas du temps. Elle comprend ce mot, le passé et l'avenir, avec un terme commun, ulia en sumérien, ou dari, darum, darum, durum en akkadien. Individuellement ou en tant que couple de termes, Ces mots font référence à des périodes de temps continuées, à des périodes de temps et enfin à la permanence. Nous avons déjà rencontré le mot donc ou la formule Durdari à plusieurs reprises et on le retrouve plus de 40 fois dans les textes et donc c'est l'une des expressions temporelles les plus fortes de toutes. Permettez-moi de vous donner trois exemples de cette formule. Encore, Shimatu Lushimki Shimati Laikatu Anadburdar. Je te déterminerai un destin qui ne se achèvera pas pour l'éternité. Hein. C'est les mots qui ont choix donc, par traduction, mais peut-être c'est un peu plus trop chrétienne, je ne sais pas. Lorsque Gilgamesh réfléchit à la mort de son ami Enkidu, il dit « Anaku ulkisha shuma anelama ul ateba durda » Ne devrais-je pas être comme lui et aussi me coucher pour ne plus jamais me relever à travers toute l'éternité? Donc, on a des difficultés étymologiques qui proviennent de la dérivation de l'acadien daru, de la racine de rdur. En ougaritique, dr signifie maison, dynastie, génération. Et la séquence DR-DR signifie génération de génération, une idée qui est davantage associée à des concepts cycliques qu'à des concepts linéaires du temps. Cependant, l'existence d'une racine secondaire d'art, retournée à soi-même, comme l'a souligné Dominique Charpin, et les termes Andurarum et Anduraru, qui en dérivent, montrent qu'ils ne signifient pas cycliques, pas du tout, mais des sections qui passent périodiquement. Ils font référence à un niveau de temps qui se déroule dans un flux continu, alors que la durée de vie humaine est caractérisée comme une période de temps fixe, qui se termine, vous vous souvenez du Adanu et de la date Simanu, de la mort, l'existence des dieux s'étend dans la permanence. Donc ce Gilgamesh, qui, quand il parle avec Enkidu, dit « Mon ami, qui peut monter aux cieux ? Ce sont les dieux qui y habitent en permanence, mais l'humanité, ses jours sont comptés. » Tout ce qu'elle entreprend n'est que du vent. On a déjà parlé de cette phrase. Enfin, c'est la zone des tensions entre les passés et l'avenir dans laquelle se déroulent les actions des souverains des Mésopotamies. Dans leur rapport d'actes et leurs inscriptions des bâtiments, ils actualisent le passé en se référant à leurs prédécesseurs et l'avenir en se référant aux futurs souverains. Le terme de référence est dans chaque cas daru. Le fait que cette idée de permanence immanente soit d'une grande importance, c'est également prouvé par sa représentation théologique dans la grande liste de dieux An Anum. Je vous montre ici la version néo-assyrienne de ces grands textes. C'est une tablette extraordinairement belle, bien faite, qui, comme tous ces textes, provient du palais d'Ashurbanipal à Ninive. Et on peut voir très clairement ici les deux colonnes, à gauche pour les entrées sumériennes et à droite pour les équivalents de la prononciation en akkadien. Et vous pouvez également voir ici que le scribe s'est épargné beaucoup de travail quand il pouvait et qu'il a toujours inséré le signe de répétition kimin dans ses textes. Donc, quand il ne voulait pas écrire beaucoup, on voit toujours, il a donné ce truc-là. Voilà, c'est pareil, comme ça, ce qu'on a plus haut. Et donc, avec cette prochaine diapositive, on peut voir un peu plus clair comme est belle cette tablette. Et voilà, une transcription de ces textes, ce n'est pas possible de le traduire, et on parle un peu plus près de ces premières lignes, lignes 1 à 13. Les noms sumériens des divinités se trouvent à gauche et les formes akkadiennes ou la disposition parle à droite. La disposition des noms dans cette partie de la liste, donc le début, est la suivante. Premièrement, la divinité masculine, là. Deuxièmement, la divinité féminine. Et, mais cependant, tout commence par une exception. Donc, An et son épouse Anum, Antum, première et deuxième ligne, sont suivies d'une troisième entrée, une répétition qui rend visible le principe du couple divin. Ce principe n'est pas explicitement écrit plus loin, mais il est certainement sous-intelligé, c'est-à-dire que le lecteur averti sait qu'un dieu et une déesse peuvent être considérés comme couple. Donc, pour les prochaines entrées dans la liste, on ne répète pas le principe de la troisième ligne, mais on ne donne que le nom du dieu et déesse. Donc, on a Anshargal et Kishargal, Anshar, Kishar, Enshar, Ninshar, et les Kimi nous indiquent que ce sont toujours des manifestations des Anu et Antu. Donc, ce n'est pas des différents dieux, mais que ce sont des hypostases de ce couple primordial An-Antu. Et dans la ligne, dans les lignes 12 et 13, nous trouvons enfin l'entrée qui nous intéresse le plus, le dieu Duru, et sa partenaire divine, la déesse Duru. C'est très étonnant, et aussi la seule entrée théologique de ce formulaire que je connaisse. Je ne connais aucun culte pour ces divinités, rien ne prouve qu'elles aient jamais joué un rôle nulle part, donc dans les cultes journalières, et pourtant nous les trouvons ici dans cette liste des dieux en position extrêmement importante. Ils suivent les grands dieux du ciel et de la terre, bien avant des dieux comme Ishtar, Sin, Shamash, Ea, Enki, sont vraiment au début. Duri et Dari, la personnification contre-sexuelle de la permanence, des principes élémentaires amorphes d'en haut et d'en bas émergeant les grands concepts qui conduisent finalement aux figures anthropomorphes des dieux. Et à l'interface entre ces deux éléments se trouve la personnification divine de la permanence. On pourrait maintenant soupçonner qu'il s'agit d'une théologie très tardive qui n'a rien à voir du tout avec l'épopée de Gilgamesh. Ce serait tout de même intéressant, mais le fait est qu'il existe un fragment monolingue de cette liste en Assyrie, du temps médio-assyrien, donc du XIIe siècle, connu d'Ashur, de la ville d'Ashur. Et comme vous pouvez voir ici, à l'exception de la disposition et de quelques détails graphiques de l'écriture, on suit ici exactement les mêmes principes. Duri et Dari apparaissent comme des hypostases du couple suprême et première divin An et Antun. Mais cela signifie maintenant que cette idée, cette théologie de l'éternité divine, était déjà bien connue au XIIe, peut-être XIIIe siècle, c'est-à-dire précisément à l'époque où, selon l'état actuel de connaissance, l'épopée de Gilgamesh a été écrite par Sinleke Unini. Donc, jusqu'à une toute petite spéculation sur la survie de cette idée chez les présocratiques grecs, ce n'est pas mon thing, mais peut-être il y a un vestige de ce concept qui a été conservé dans les fragments des Phérécides de Syros, dans l'introduction duquel il dit que Zas, Zeus, et Cronos ont toujours été avec les Chtoniques. Et donc, on ne pourrait pas du tout expliquer ces deux dieux-là, parce que ce n'est pas Cronos, mais Chronos. Mais peut-être avec les plans de la de l'idée mésopotamienne, on a ici une petite trace pourquoi on mit ensemble ces dieux. Il sera certainement utile et productif d'approfondir ces questions, mais c'est tout à fait une autre histoire. On a maintenant encore un peu à réfléchir sur ces problèmes de la permanence. Et l'hypothèse que la permanence s'est réalisée par le mémoire et le souvenir, c'est un thème principal de cette recette de Gilgamesh. Je vous montre ici une phrase de la 11e tablette dont on dit « Umi anuti luhsu sama anadarish ai amshi » Pour que je me souvienne de ces jours et ne les oublie jamais. C'est là que Gilgamesh parle de son travail et que, sous la forme acadienne, luhsu sama est formé par la racine hasas ou se souvenir, un mot qui relie le passé, le présent et le futur. Donc, il réfléchit sur ce mode de transcendre le présent. Il est ici rhétoriquement complémentaire. Laya amshi, la racine machu, oublier, le désir de ne jamais oublier. Cette petite phrase, je veux me souvenir de ces jours et ne jamais les oublier, c'est la formule pour la permanence, pour le daru. Et ces mots se présentent ici dans l'adverbe darish que vous voyez très bien ici. Donc c'est toute cette phrase qui, à mon avis, est centrale pour le texte. Donc, souvenir, pas oublier, permanence. C'est donc le fait de se souvenir et d'être rappelé qui crée le troisième pont temporel, un pont qui relie le passé, le présent et l'avenir. Et le racine Hasazu est bien sûr aussi à la base du nom Atrahasis que nous connaissons grâce à l'ancien paléo-babylonien Inuma Ilu Awilum dans l'épopée de Gilgamesh. Atrahasis porte un nom différent, Utanapishtim, qui a trouvé la vie. Et ce nom illustre le changement de perspective qui a eu lieu entre les deux récits. L'épopée de Gilgamesh porte sur les conséquences du déluge, l'existence indéfinie des deux survivants. L'Atrahasis, Inuma Ilu Awilum, vise à permettre aux gens de survivre au déluge afin que le service aux dieux puisse continuer. Dans la dernière conférence, nous avons parlé de la fonction des passages où le récit traite du processus de humanisation ou de déshumanisation. Et vous vous souvenez d'abord le chemin de la création ad hoc Enkidu qui vit d'abord dans la steppe avec les animaux et qui peu à peu se civilise jusqu'à devenir finalement un membre de la famille royale d'Uruk. Le second cas, que l'inverse, Gilgamesh qui après la mort d'Enkidu s'éloigne de plus en plus de la civilisation, de la vie avec le peuple jusqu'à ce qu'il ne soit plus reconnaissable en tant que tel. Et enfin, troisièmement, sa retransformation en être humain, en membre de la société, lorsqu'il est renvoyé dans sa ville Uruk par Utnapishtim. D'une part, nous avons considéré ces passages du point de vue de l'accélération. Nous avons souligné les caractères de la distorsion temporelle qui se dessine ici dans les intérêts du récit. D'autre part, j'ai soutenu qu'un aspect décisif de la civilisation est l'assujettissement à l'humain, plus précisément à l'ordre social du temps. La contrepartie est l'ordre temporel animal qui fait que le récit se concentre sur les besoins physiologiques élémentaires, l'alimentation, le sommeil et les mouvements. Le processus de déshumanisation réduit l'homme à ce niveau d'existence. La question de savoir ce qui distingue l'homme de l'animal trouve ici l'une des premières représentations. Et c'est aussi le point de départ de la question du lien entre une conscience de la temporalité et une conscience de la historicité. Pendant longtemps, l'Est, très général, s'est vu refuser tout sens de l'historicité et de la temporalité. On a constaté qu'un manque général de conscience du temps était enraciné dans les concepts cycliques prémodernes du temps qui étaient considérés comme fondamentalement opposés aux concepts modernes et occidentaux des notions linéaires et progressives du temps. Le fait que les trois religions abrahamites, le judaïsme, le christianisme et l'islam ayant émergé dans les cônes du Proche-Orient antique, leur concept principal, à savoir la téléologie linéaire de l'histoire, a été négligé en termes d'héritage alternatif du Proche-Orient ancien. La grande dichotomie entre l'Orient et l'Occident a été établie selon les récits d'une vision du monde rétrospective et cyclique en Orient, par opposition à une vision du monde prospective et linéaire progressive en Occident. L'historicité, donc la pensée historique systématique, était considérée comme un développement occidental. Donc, en ce qui concerne le Proche-Orient ancien, il a même été prouvé que les locuteurs des langues sémitiques, telles que l'acadien ou l'hébreu, n'étaient même pas capables de développer un concept complet de l'avenir et des preuves linguistiques en étaient fournies, en disant que le mot acadien pour l'avenir, pour passer et verbalement les jours qui se trouvent avant ou devant moi, tandis que le terme pour l'avenir est verbalement les jours qui se trouvent derrière de moi, dans mon dos. Et vous voyez les problèmes. L'homme occidental tend les bras vers l'avenir alors que nos frères et sœurs orientaux lui tournent les dos. Mais ça, c'est impossible. Hein? C'est un discours épouvantable. Parce que aussi, entre-temps, il a été démontré que de nombreuses langues conceptualisent le temps dans un cadre métaphorique spatial et pas seulement les langues sémitiques. Elles comprennent l'individu comme se situant verbalement entre les passés et les futurs, et ce que vous pouvez voir, c'est ce qui se trouve devant vous. Donc, si on voit cette permanence, c'est pas déstructuré. Les textes sumériens et d'acadiens font référence à ces macro-temps, donc passé, avenir, initialement sans contour à deux niveaux. Un niveau décrit l'événement passé au moyen d'une chronographie télescopique, par exemple l'introduction mythique et historique aux listes royales, relie les temps présents d'innombrables au début et à la préhistoire moins structurée, avant les grands déluges et après les grands déluges. Ce sont les deux grandes périodes du passé qui peuvent être saisies rétrospectivement à partir du présent. L'exemple le plus connu se trouve dans l'introduction de la liste des rois sumériens, dont les premières preuves textuelles remontent aujourd'hui au 22e siècle avant notre ère. Une phase sans royauté est suivie par la succession des souverains. La liste royale est un format typique pour relier les périodes individuelles au temps objectif, qu'elle se réfère à des principes dynastiques, à la formation des clans ou à des autres structures cognatiques ou agnatiques. Ici, le temps se manifeste dans la structure de la relation solidaire. Comme les listes royales, les listes des noms d'années, des éponymes, représente les liens entre continuité et renouvellement, entre chronométrie anthropique et principe divin, dans une récursivité linéairement explicite. Le principe de la généalogie est adapté non seulement à un aspect de la mémoire qui pointe vers le passé, mais aussi un aspect qui pointe vers l'avenir, qui doit être activé par l'individu au cours de sa vie. Le roi doit surpasser ses prédécesseurs, il doit se faire un nom qui se doit durablement préserver et prendre ainsi conscience de son historicité. Mais d'où vient ce raisonnement historique? Aujourd'hui, nous comprenons la conscience historique comme un facteur primordial de la condition humaine. Les sciences cognitives nous apprennent ce qui arrive aux individus qui perdent la mémoire. Maurice Halbwachs, Jan Assmann et d'autres ont montré que la société développe quelque chose de similaire à une mémoire collective ou culturelle. Ces métaphores sociobiologiques ont toutefois été fortement critiquées car elles attirent l'attention sur le fait qu'il y a quelque chose que les individus établissent lorsqu'ils se synchronisent en société. Cette capacité de transfert de connaissances et de compétences accumulées au fil des générations a été appelée intentionnalité collective humaine par Tomasello. Les humains sont les seuls êtres vivants à posséder une mémoire véritablement épisodique, ce qui leur permet de faire la différence entre le passé, le présent et l'avenir. Les humains peuvent faire des voyages mentaux à travers le temps dans les deux sens. Ils sont capables de développer des scénarios mentaux complexes afin de planifier et d'exécuter des projets techniques et artistiques complexes. L'intentionnalité collective et la mémoire épisodique sont dans les deux catégories cognitives de base du cerveau humain qui ont permis l'évolution de la conscience historique à tous les hommes. Donc, faire face à l'avenir, c'est-à-dire au non-présent, c'est donc une capacité importante de l'homme. Tout comme nous pouvons imaginer des non-lieux et des non-lieux sont capables de développer des dystopies, des utopies, nous pouvons aussi imaginer des états temporels qui ne sont pas possibles. On a souligné l'importance de cette capacité qui s'exprime, par exemple, de manière spécifique dans la législation, et je cite Arne Jarik ici, qui dit « It is also of relevance that the legislators displayed an ability to handle the non-present, which is at the core of what makes humans unique in the world of living species. » Donc, présenter une loi pour des choses qui ne sont pas encore arrivées, c'est quelque chose de très spécifique. Pour voir ces grands espaces temporels qui sont d'une part clairement définis, passé, avenir, et d'autre part encore très vaguement conçus, ces espaces, comment est-ce qu'ils se reflètent dans le récit de Gilgamesh? Et on peut observer là une étrange symétrie. Je vous montre ici à nouveau les résultats de l'analyse lexico-sémantique qui, par rapport au nombre total des mots reçus, donne toujours une impression des points principaux des différents chapitres. Donc, voilà, en bleu, vous pouvez voir ici les parties du texte qui concernent principalement le passé, c'est-à-dire les rétrospectives et les références à des époques antérieures. Des couleurs violettes sont les chapitres qui sont principalement focusés sur l'avenir. Et en rouge, finalement, c'est de l'immortalité, donc les discours principaux de cet récit. Si on les met tout ensemble, on trouve une couleur un peu mélangée, mais c'est très clair que la disposition des thèmes avenir, passé et le problème mortalité, immortalité ne sont pas en concurrence, mais en complémentarité aux autres. Le présent lui-même n'est toujours qu'un axe du narrateur, ce n'est pas présent ici. L'histoire racontée elle-même est composée de rétrospectives et de prévoyances. Les parties dans lesquelles l'immortalité est thématisée agissent comme une charnière et ce n'est pas un hasard si ce sont précisément ces parties du texte dans lesquelles les structures fondamentales du temps sont discutées. Les souvenirs de Gilgamesh dans la liste royale sumérienne, dans l'épopée et les chansons, et finalement le témoignage du fait que le passé et l'avenir sont liés, que de faire son nom, le motif central de ce texte, a vraiment un sens. Donc, chronométrie et chronologie, la nécessité d'une planification exacte du présent et du futur est basée, selon les idées mésopotamiennes, sur la connaissance et la confrontation avec le passé. Cela implique une appréhension linéaire du cadre d'action au sens large du temps, que se présente successivement et non selon des rythmes cycliques. Le lien entre le temps historique et mythique ne contredit nullement un concept aussi linéaire. Au contraire, comme le soutient Gebhard Sels, c'est précisément l'absence de la notion des contingences qui entraîne l'enchevêtrement du futur et du passé dans lequel le premier peut être planifié et façonné à partir du second. Cela soulève la question des conceptions éventuelles d'un moment tant plus général, des considérations sur son origine et son début et sa fin. Les motifs de l'origine de toutes les choses est présenté dans les Lumaelej, par exemple, quand au début les cieux n'étaient pas encore nommés et que sous la terre n'avait pas encore du nom, est-il déclaré dans les deux vers d'introduction. On ne dit pas ce qu'était, mais plutôt ce que n'était pas. Mais le début n'est pas conçu comme un néant abstrait, il est plutôt saisi par la négation décrite comme un état dans lequel il n'y avait rien. Cela ne veut encore qu'à dire qu'il n'existe pas, au contraire, des rapports de création positive, mais en aucun cas on évoque un état originel paradisiaque. Cette observation correspond à l'attribution de l'idée des paradis à la tradition perse, qui en Mésopotamie ne trouve un parallèle que dans les motifs du jardin royal. Dans les rapports de création, une distinction est faite entre la matérialisation de la nature et de la civilisation, au sens plus large, et la création de l'homme, y compris les institutions sociales qui le caractérisent. On pourrait compter cela en disant, par exemple, que dans un mythe de la création sumérienne, un âge d'or est apparemment évoqué lorsqu'il dit, et je cite, « En ces temps-là, il n'y avait ni ces serpents, ni scorpions, ni lions, ni hyènes, ni chiens, ni loups. L'homme n'avait pas d'ennemis, la peur et l'anxiété n'existaient pas. » Fin de la citation. N'est-ce pas là une description d'un état d'origine idéal? Mais ce qui est décisif, c'est le phénomène d'incomplétude qui relie les deux sommets. Ce n'est tout simplement pas un monde parfait si ces créatures dangereuses pour l'homme n'existent pas. Au contraire, c'est un état dans lequel l'ordre du monde n'est pas encore complet. La mémoire d'origine du monde est associée au processus du devenir et de l'émergence qui ne commence pas avec l'achèvement. Il faut bien souligner que nous ne voyons paraître nulle part l'idée d'un état idyllique, paradisique, au début de l'histoire, comme l'a précisé Dizoto Etzar dans un article intitulé « La vision du passé et de l'avenir en Mésopotamie ». Donc, ce n'est tout simplement pas l'expulsion d'un paradis, la dégradation d'un état doré, ce n'est pas la doctrine des âges du monde descendant qui marquerait le progrès du temps. L'idée d'un processus de civilisation, l'amélioration progressive d'un premier état imparfait, est en quelque sorte l'idée qui caractérise le cours du monde. Et ces processus est en scène de façon presque idéal-typique dans les motifs du moi, ces forces civilisatrices et universelles qui sont accordées aux gens par les dieux dans le mythe des Inanna et Enki. Ces débuts est-il accompagné d'une fin? Le seul indice d'une conception apocalyptique de l'histoire à ces jours est une tradition attribuée par Sénèque à Berossos, selon lequel le monde périra dans un cataclysme cosmique lorsque toutes les étoiles de la constellation du cancer convergeront. Il est toutefois douteux qu'ils agissent d'un concept originaire des Mésopotamies, parce que la référence à la constellation astronomique elle-même pourrait remonter à la tradition de divination astronomique et a été réinterprétée dans le contexte d'idées apocalyptiques plus récentes, dites donc du temple hellénistique. Même si les concepts de prospective, une gestion de l'avenir, ou Zukunftsgestaltung, pour utiliser le terme qui a été conçu par Stefan Maul, semblent reposer sur une conscience prédéterminée du temps et de l'existence, qui est déterminée par certains commandes cycliques, par des autres comme non linéaires, il n'y a en aucun cas l'idée d'un plan divin se déroulant dans l'histoire. La pensée eschatologique ou apocalyptique ne fait pas partie des visions du monde mésopotamien, à part de la destruction des villes, mais c'est une autre chose. Le cours du monde est caractérisé par le changement dans le cadre de la permanence. À la fin de cette petite série de réflexions sur le rôle du temps et de la temporalité dans l'épopée de Gilgamesh, permettez-moi d'aller un peu plus loin. Ce thème du temps appartient à juste titre au grand domaine interdisciplinaire. La recherche dans ces domaines est fortement déterminée maintenant par les sciences de la vie, d'une part la biologie, la neuroscience, les sciences cognitives, et par les sciences sociales d'autre part. Mais en tant que fait anthropologique, c'est-à-dire dans sa manifestation en tant qu'élément structurant de la conscience humaine, le sujet du temps relève aussi et surtout des sciences humaines. Et j'espère avoir montré que même des époques de l'histoire humaine assez éloignées dans les passés peuvent apporter quelque chose à ces sujets. Dans les témoignages concrets des textes, d'objets, dans les représentations et les pratiques, mais aussi intégrés dans un grand récit comme l'épopée de Gilgamesh. Si vous le souhaitez, ce texte contient une philosophie de la temporalité qui combine des aspects de la ontogénèse, de la phylogénèse et de la sociogénèse. Et c'est précisément cette façon de voir les choses que le sociologue, historien et chancelier de l'Université de Chicago, Lewis Mumford, a évoqué à l'occasion d'un symposium à l'Institut oriental de l'Université de Chicago en décembre 1958. Ce symposium était dédié à l'Urbanization and Human Evolution in the Ancient Near East. Et je vous montre ici la salle de conférence, halle centrale de l'Institut, un lieu qui, par soi, exprime la profondeur du temps d'une manière particulière. Hein. Vous voyez le relief, bas relief assyrien au fond et à côté des choses, petits trucs exposés de toutes les époques du Proche-Orient ancien. Donc, aujourd'hui, Mumford, qui a donné cette introduction, a dit avec les mots « Explorations in time, however, are explorations in human depth ». Donc, les explorations dans le temps sont cependant des explorations dans leur profondeur humaine. Et donc là, il exprime les mieux que la version standard de l'épopée Gilgamesh nous apprend. C'est la temporalité qui est au cœur de l'être humain. Ce sont les rythmes, la durée, la permanence, la synchronisation qui sont à la base de l'être, de l'horloge moléculaire à l'organisation de la société. Et avec ça, je vous remercie de votre patience et de votre intérêt. Je m'excuse pour mon français encore assez faible. Et je voudrais aussi remercier les professeurs du Collège de France de m'avoir invité dans ce lieu unique d'échange scientifique. Merci beaucoup.